C'est avec émotion que nous vous invitons à écouter ce nouveau CD d'un cours de Rav Aharon Daniel Heyman, Shlita, Rosh Yeshivat Mekor Israël, à Épinay. C'est l'un des fameux cours donnés par le Rav Heyman Shlita au Centre Poissonnière, à Paris, de mercredi en mercredi, entre 89 et 92. Et c'est exceptionnel que malgré le temps écoulé, nous puissions encore y avoir accès. Le Rav Heyman nous convie ici à une réflexion sur les trois signes distinctifs du peuple juif, à partir d'un texte du traité Yevamot 79a, partiellement complété au cours du développement par un Tana de Beliaou Zuta, 8e Perek. Cet enregistrement est dédié à la mémoire de Salomon Chaim ben Mesaouda Layani, Zichrono Livracha, rappelé auprès de ses pères le 20 Tammuz 5764, que son épouse Mesaouda, le Beit Atia, Tibadel Lechaim Tovim Varukim, ait une longue vie en bonne santé, entourée de l'affection de tous les siens. Que la mémoire de Salomon Chaim Layani Zichrono Livracha soit source de bénédiction pour l'ensemble d'Israël. Amen. Nous vous en souhaitons une excellente écoute.
Shlosha simanim yesh be'uma zu. Il y a trois signes distinctifs be'uma zu dans ce peuple, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Harachmanim, ce sont des gens qui ont pitié des autres. Vabaishanim, ce sont des gens qui ont honte, qui ont de la retenue. Vegomle chassadim, ce sont des gens qui pratiquent le chesed, c'est-à-dire la bonté. Rachmanim, ce sont des gens qui ont pitié d'Irtiv, comme le verset dit, Venatan lecha rachamim, verichamcha, veirbecha, Venatan lecha, Akadosh Baruch Hu te donnera rachamim, de la pitié, verichamcha, et il aura pitié de toi aussi, veirbecha, et il t'agrandira. Baishanim, des gens qui ont honte, des gens de retenue, d'irtiv. Tiye yiralto al penechem, afin, ça se passe, le verset parle du moment où Dieu a apparu au mont Sinaï, ba'avour, afin, tiye que soit yirato sa crainte, al penechem, motamo sur votre face. Gom les chassadim, des gens qui sont bons. Dirtiv, le man asher yitzave et banav et beto acharav. On parle d'Avram Avinu. Dieu l'a rapproché de lui parce que c'est quelqu'un asher yitzave et banav et beto acharav qui a ordonné à sa maison, à sa descendance. La Gemara n'amène pas la fin du verset. Là-bas, c'est marqué Veshamru derech Hashem. Et ils garderont le chemin de Dieu, que ce soit Mishpat, la justice, Tzedaka, la charité. Kol sheyesh bo shlosha simanim alalu, tout celui qui possède ces trois signes distinctifs, Raoui le idabek beumazu, celui-ci, il est capable, il lui sied, l'Idabek, de se coller, Beumazou, à ce peuple-là. C'est-à-dire que celui qui veut devenir juif, c'est le sujet dont parle la Gemara ici, doit posséder ces trois signes-là. Encore une fois, Shlosha Simanim Yesh Beumazou, il y a trois signes distinctifs dans ce peuple. Arachmanim, Vabaishanim, Vegomli Chassadim. Il y a des gens qui ont pitié, des gens qui ont honte et des gens qui sont bons. La Gemara amène les versets desquels elle tire qu'il s'agit du peuple juif. Et ensuite, la Gemara dit Kol Shiyesh Bo Shlosha Simanim Halalu, tout celui qui possède ces trois signes-là, Raoul, Idabek, Beumazou, celui-ci, on peut l'accepter comme converti dans le peuple juif. Ici, il est dit qu'il y a trois signes. On va vite comprendre les deux premiers. Ou en tout cas, plutôt le premier et le dernier. Rachmanim, ce sont des gens qui ont pitié. Gomle Chassadim, ce sont des gens qui se conduisent avec bonté. Ça, c'est une attitude qui n'est pas difficile à comprendre. La pitié et la bonté, c'est ce qui peut faire un peuple. Puisqu'il s'agit du guerre, de celui qui veut se convertir et qui veut faire partie du peuple juif. Alors on dit le peuple juif, c'est un peuple. Et voilà comment les gens se conduisent. Seulement ici, il y a un troisième signe qu'on va essayer de voir ce soir. C'est ce qui est marqué Baishanim. Baishanim, la boucha, en français on traduit la honte. On peut peut-être aussi traduire la retenue. Honte vis-à-vis de qui? Honte vis-à-vis de quoi? On va essayer de le déterminer. Ça veut dire que les deux signes distinctifs qui sont Rachmanim et Gomli Chassadim, c'est quelque chose que l'on peut comprendre facilement. Depuis Avraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, ce sont des midot, ce sont des qualités qui existent dans le peuple juif. Un juif se distingue parce qu'il est quelqu'un qui n'est pas dur, quelqu'un qui a pitié. C'est quelqu'un qui sait voir l'autre. Mais on va voir qu'est-ce que ça veut dire, Baishanim, la boucha. Regardez le deuxième texte que vous avez. Prenez la quatrième ligne avant la fin, le premier mot, Tania. Tania, il est enseigné dans une braïta. Ba'avut yehirato al penechem. Le même verset qu'on a vu dans la Gemara dans Yevamot. Dieu a apparu au mont Sinaï afin que sa crainte soit sur vous. Zubusha. Le verset parle de la crainte. Mais en vérité, la Gemara traduit Zubusha, c'est-à-dire on parle plutôt de la honte, pas de la crainte. Le vilti techetaou, pour ne pas fauter. Melamed. De là, j'apprendrai chez Aboucha, mais via l'idée iratret, que la honte, mais via elle mène l'homme vers une autre qualité, iratret, la peur du péché. Mikan amrou, c'est de là qu'on dit les Chachamim, siman yafe ba'adam, c'est un bon signe pour l'homme chez Ubaishan. Qu'il est baishan, c'est-à-dire quelqu'un qui a de la retenue. Acherim omrim, d'autres achabim disent, kol adam amit bayesh, tout homme qui a de la honte, qui a de la retenue, lo bimera ou choté, ça n'est pas vite qu'il pêche. Ou mishen ou bochet panim, et celui qui ne connaît pas ce sentiment de retenue, beyadoua. Veyadoua, ça veut dire nous savons que Sheloamdo Avotav al Arsinaï, que ses pères ne se sont pas tenus debout sur le mont Sinaï. Encore une fois, on va répéter le texte. Bavur Tiyirato al Penechem Zubusha, afin que la crainte de Dieu soit sur le peuple d'Israël, il ne faut pas comprendre la crainte, mais il faut comprendre la boucha, la honte. Le Vilti Teretao, afin que vous ne commettiez pas de péché, me la met chaboucha me via l'idéira traite. De là, je sais que celui qui a de la retenue ne commettra pas de péché. Mikan amrou, c'est de là qu'on dit les rachamim, simani afe ba'adam. C'est un bon signe chez Ubaishan. Acherim omrim, il faudra voir quelle est la discussion. D'autres disent, non, c'est pas ça. Kol adam amit bayesh lobimera uchote. Tout homme a mit bayesh, qui a honte, l'obimera ou choté, celui-ci ne se laisse pas entraîner vers le péché. Ou michéen ou bochet panim, mais celui qui n'a pas de retenue, biyadoua, il est connu, shelo amdu avotav, al har sinai, que ses pères ne participaient pas au mont Sinaï, ça veut dire qu'il n'est pas juif. Alors on voit tout de suite qu'entre la première et la deuxième Gemara, il y a un glissement net. On dit Shlosha Simanim Boumazou, la Gemara dans Yevamot, la Gemara que vous avez en haut dit, il y a trois signes distinctifs. Voilà comment on doit reconnaître un juif. Celui qui veut devenir juif, c'est-à-dire on lui demande d'être le juif parfait, lui, puisque lui veut devenir. Celui qui est, il est. Mais lui veut devenir. Celui qui veut devenir, on lui dit voilà à quoi tu dois t'attendre. Si tu n'es pas capable de ça, si ta nature se rebelle à ces trois idées-là, alors ce n'est pas la peine de devenir juif. Mais la deuxième Gemara, elle va beaucoup plus loin. Et on va essayer de voir quelle est la discussion. La Gemara dit, regardez la troisième ligne avant la fin, « Mikan amru siman yafe ba'adam shu ba'ishan ». Siman yafe, c'est un bon signe lorsqu'on voit un homme qui a honte. Mais acherim amrim, disent non. Kol adam amit bayesh lo bimera uchote. Celui dont on peut être sûr qu'il ne va pas se laisser entraîner au péché, c'est parce qu'il est mit bayesh. Parce qu'il a ce sentiment de retenue, de honte. Le corollaire est celui qui n'a donc pas les éléments pour ne pas pécher. Quelqu'un qui, dans sa nature, ne peut pas avoir accès aux mitzvot de la Torah puisqu'il ne possède pas en lui cette faculté de ne pas faire ce que la Torah lui demande de ne pas faire. C'est donc que ses pères n'étaient pas au Har Sinaï. Ça veut dire que maintenant, on a le théorème et son corollaire. On va dire si celui-ci n'a pas de honte, c'en est au point que Yadoua, il est certain, Yadoua, ça vient du mot Lada, de savoir. On sait qu'il ne fait pas partie du peuple juif. Parce que ça, c'est un sentiment qui est intrinsèque au peuple juif. Au point qu'on puisse juger si quelqu'un est juif ou non. Comment est-ce qu'on peut juger s'il a honte ou non? C'est déjà plus difficile. Mais si on y arrive, les Chachamim nous disent, Acherim, il y en a d'autres qui disent, de même que Dieu est apparu au mont Sinaï, et qu'il est apparu afin qu'un sentiment existe dans le peuple d'Israël, ce sentiment s'appelle la boucha, la honte, ce sentiment, il doit durer dans le peuple juif. Et il dure dans le peuple juif puisque ce sentiment, il n'a pas été seulement celui qui est transmis à ceux qui étaient au mont Sinaï, mais à toutes les générations du peuple d'Israël. Donc le corollaire est vrai, celui qui n'a pas de boucha, celui qui n'a pas de honte, c'est qu'il n'a pas l'élément. Lo amdu avotav al Har Sinaï, ça veut dire il n'a pas en lui les éléments qui font qu'il puisse avoir une part dans la Torah. Au point que si j'arrivais à juger moi le fond de l'homme et de savoir s'il a de la boucha, il a de la honte ou non, je pourrais savoir qui est juif et qui ne l'est pas. Alors la première question, elle est simple. D'abord, qu'est-ce que c'est que la honte? Et en plus, en quoi la honte a un rapport avec la crainte? Puisqu'on dit Bavo, afin que tiye yirato al penechem, que soit la crainte de Dieu sur le peuple d'Israël, le vilti teretaou, pour ne pas fauter. Viennent chacham, dit attention, ici on parle de quoi? De la boucha, de la honte. Quel est le rapport entre la honte et le péché? Et comment est-ce qu'on peut cerner ou déterminer qu'est-ce que c'est que ce sentiment de la honte? Ça, c'est les deux questions auxquelles il faut répondre avant de pouvoir continuer.
L'éloignement du micro n'a pu permettre de reproduire les interventions du public. Rav Eyman va succinctement les résumer et au fur et à mesure les prendre en compte dans son développement.
Alors vous entendez, boucha, ce ne serait pas le sentiment de honte, ce serait le fait d'accepter qu'il y ait quelque chose autour auquel on doit se référer. Donc, première réponse, à l'inverse des deux autres simanim, des deux autres signes qui sont dans le peuple juif et qui sont par rapport aux autres, c'est-à-dire Rachmanim, qu'un juif c'est quelqu'un qui a de la pitié, Gomle Chassadim, le juif c'est quelqu'un qui est bon, ou ce sont des sentiments qui s'expriment vis-à-vis des autres. La première réponse qu'on a, c'est que la boucha, le sentiment de honte, c'est vis-à-vis de soi-même. Il faudra que nous explique après qu'est-ce que ça veut dire vis-à-vis de soi-même. Bon, deuxième réponse, vous entendez ? Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou non, la honte, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a peur d'être ridicule. C'est-à-dire que ce n'est pas un sentiment vraiment profond, c'est un sentiment de rapport avec l'autre. C'est-à-dire que c'est celui qui a peur de l'autre. D'accord, donc c'est vis-à-vis de Dieu, peur vis-à-vis des hommes. Donc de nouveau, ça ne cadre pas avec les deux autres. Puisque Rachmanim et Gomle Chassadim, c'était vis-à-vis des hommes, et là, ce serait vis-à-vis de Dieu. C'est ça, ça veut dire que ça cadre bien avec la deuxième réponse. Ça voudrait dire que c'est vrai que c'est un sentiment qui est révélé par l'intermédiaire de l'autre, mais en vérité, c'est un sentiment par rapport à soi-même, pas par rapport à l'autre. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Donc de nouveau, ça veut dire que la honte, c'est par rapport au jugement de l'autre. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir honte par rapport à soi-même. On est obligé d'avoir les autres pour le révéler. Je ne suis pas sûr que la preuve par la suite dans les bandes. On va voir, on va réfléchir. Bon. Alors. On a deux types de réponses. Donc on va essayer de faire la différence entre le sentiment lui-même de honte ou de retenue et ce qu'on appelle en hébreu la tofa, c'est-à-dire sa manifestation. Il ne faut pas confondre, parce qu'en français il s'agit des mêmes mots. On a honte, c'est la manifestation d'un sentiment. On a dit d'un sentiment qui est celui d'un décalage entre ce qu'on est et ce qu'on devrait être au regard des autres ou alors au regard de Kadosh Baruch Hu. La honte en tant que manifestation du sentiment, elle ne nous intéresse pas. Ce qui va nous intéresser, ce n'est pas la manifestation du sentiment, c'est le sentiment lui-même. Parce que la manifestation qu'on appelle ça honte, rougir, pâlir, ça c'est pas notre problème. On va regarder le sentiment lui-même. Alors, avec toutes les définitions qu'on a entendues, on est obligé de retenir deux choses. Premièrement, que n'a honte que celui qui a un barème, qui a quelque chose auquel il doit se confronter. Ça, on va voir si c'est juste. Et deuxième chose, la honte, ça vient de l'échec que manifeste cette confrontation. D'accord ? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, je vous dis pourquoi. Parce que même là, il ne faut pas confondre la manifestation du sentiment et le sentiment lui-même. C'est vrai que la honte se manifeste pour celui qui a un barème, celui qui doit se mesurer à une idéologie. Il n'y arrive pas, alors il y a un sentiment de honte. Mais ça aussi, c'est une manifestation. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est que peut-être la honte, c'est la possibilité de se mesurer à quelque chose d'extérieur. On va essayer d'expliquer pourquoi. En hébreu, le contraire de la boucha, ça s'appelle azut panim. Il y a bochet panim et azut panim. Panim, ça veut dire le visage, la face. Parce que c'est vrai que la boucha, c'est par rapport à quelque chose. C'est pour ça qu'on appelle ça la face. C'est vrai qu'il faut avoir un barème. Mais est-ce que la boucha, c'est seulement le sentiment d'échec vis-à-vis de ce barème-là? Ou c'est justement le sentiment de s'y mesurer? Alors, lorsque je m'y mesure avec réussite, ça peut aussi faire partie de la boucha. Seulement, on n'a pas la manifestation qui est la manifestation de honte, qui est celle de l'échec. Mais de se mesurer avec quelque chose, peut-être que c'est ça qu'on appelle la boucha. Ça veut dire qu'on ne devrait pas le traduire par le mot français honte, mais par le mot retenu, qui voudrait dire que je suis retenu, moi, par un barème, par une idéologie, par une idée, par une conscience, par tout ce qu'on veut. Parce que le reste, c'est la manifestation du sentiment. Ce n'est pas le sentiment lui-même. Le sentiment, c'est de la confrontation. Et on va essayer de dire pourquoi. Az panim, c'est celui qui n'a pas de honte. Maintenant, on va essayer d'étudier ce mot « az ». « Az », c'est exactement le contraire du mot « za ». « Zayn ayn ». Quelqu'un sait ce que ça veut dire « za » ? Il est employé sous cette forme une seule fois dans tout le Tanakh. Dans la Megillat Esther, lorsqu'il est marqué que Mordechai n'avait pas peur de Haman, velo kam, velo za mimenu. Il ne s'est ni levé, ni il a tremblé devant Haman. Za, ça veut dire celui qui tremble. Az, c'est celui qui tremble jamais. Pourquoi est-ce qu'il ne tremble jamais ? Parce qu'il définit sa référence selon son désir. À partir du moment où la référence elle n'est pas selon mon désir, alors là je commence à trembler. Mais si c'est moi qui définis la référence, j'ai jamais peur. Ça veut dire que on doit associer le sentiment de peur, qui est aussi une manifestation du sentiment de boucha en hébreu. Et maintenant, on va essayer de traduire le mot « bosh » en hébreu. « Vosh, bet, vav, shin », c'est l'anagramme du mot « shav ». « Shav », ça veut dire « revenir ».« Vosh », ça veut donc dire « être écarté ». Lorsque je mesure l'écart qui existe entre ce que je suis et ce que je pourrais être, ce que je devrais être, ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, le fait de mesurer cet écart, c'est la boucha. Ça veut dire que dans la manifestation extérieure, je ne suis pas obligé de parler de honte, mais je suis obligé de parler de retenue. Je ne suis pas moi-même ma propre référence, je suis retenu par quelque chose. Évidemment, la manifestation de ce sentiment, ça s'appellera aussi la boucha. Quelquefois, ça se traduit par la honte. Quelquefois, ça va se traduire par la peur. La crainte. C'est pour ça que la Gemara nous dit « Ba'avur ti'irato alpenechem » la crainte de Dieu. Parce que vis-à-vis de Dieu, on va voir qu'on n'a pas honte, on a crainte. Et on va essayer d'expliquer pourquoi. Pourquoi vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, le verset n'emploie pas le mot boucha, mais emploie le mot « yira ». D'où vient le mot « yira » ? Hein? Ça vient du mot roé. Be'ar Hashem yirae. Yira, ça veut dire quelqu'un qui arrive à voir autour de son propre barème. Il arrive à voir quelque chose d'autre. Ce qu'on traduit par la crainte. Craindre, ça veut dire j'ai peur de ne pas coller avec ce que je dois être, ce que je peux être, ce que je sais que je dois être. Donc lorsque je viens du mot yira d'un côté, qui veut dire craindre. Craindre, ça veut dire se confronter à et avoir un barème devant soi. C'est pour ça qu'on appelle la crainte de Dieu ou la crainte du péché. Et le mot boucha, je vois que le mot boucha, c'est une traduction du mot crainte. Puisque si vous regardez dans le Gemara, la Gemara dit « Yirato alpenechem zua boucha ». Il s'agit de la boucha. Comme s'il ne pouvait craindre que celui qui possède la boucha. Ça veut dire qu'il faut, un homme doit posséder assez de retenue pour pouvoir se mesurer à un idéal. Il vit donc avec la crainte, non pas de cet idéal, mais de ne pas coller à cet idéal. Ça veut dire que la traduction du mot « yira » si on veut la connaître dans les sentiments, dans la nature humaine, c'est dans la boucha, pas dans la crainte. Parce que la crainte, elle peut être imposée. La boucha, ça vient de l'homme lui-même. Donc on va traduire non pas honte, mais retenue. Et là, on va aller un petit peu plus loin maintenant. La Gemara nous dit, si Mani a fait, c'est un bon signe chez celui qui a de la retenue parce qu'on sait qu'il ne va pas fauter. Ça veut dire que la faute vient du fait que je ne respecte pas, je ne me mesure pas un barème. C'est moi qui ai le propre barème. Ce qu'on appelle en hébreu la hazout. Azout, on a dit, c'est l'inverse du mot za. Le mot za veut dire en hébreu trembler, avoir peur. Si je n'ai pas peur, c'est qu'au moment présent, je suis moi-même l'étalon. Parce que sinon, je ne suis jamais sûr de coller absolument à ça. Et on va aller un petit peu plus loin. Parce que si vous regardez dans le Maharal de Prague, dans les Netivot, il y a un chapitre qui s'appelle Netiva Boucha. Le chapitre de la Boucha. Et lui, il ne parle pas seulement par rapport à Kadosh Baruch Hu, il parle même par rapport aux hommes. Et il explique ceci. Lorsque je suis confronté à l'autre, je suis obligé d'avoir une certaine retenue vis-à-vis de l'autre. On va étudier d'où vient ce sentiment-là. Peut-être parce que la place que lui occupe et la place que moi j'occupe, lorsque moi je le vois lui, je le vois sur une place et sur une position déterminée. Mais la position sur laquelle je me suis placé moi, je ne puis jamais être sûr que ce soit la mienne. Et on va essayer d'expliquer encore un peu plus. On avait dit une fois, nous, que le mot Reacha, vous savez qu'il est marqué dans la Torah, Ve'avta, tu aimeras, Reacha, ton prochain, Kamocha, comme toi-même. D'accord. On avait dit le mot Reacha, c'est le même mot que Ra. Ra, ça veut dire briser. Briser. Comme il est marqué dans le verset Teroem Beshevet Barzel. C'est pour ça que le shofar, lorsque l'on fait entendre de petits sons coupés, il s'appelle Teroua. Reacha, Rea, c'est une partie. Le Ra, c'est quelque chose, le mal, c'est quelque chose qui a été brisé, un but qui a été cassé. On a déjà expliqué plusieurs fois que dans la Torah, la différence entre le bien et le mal, c'est que ce qui a un but, c'est bien, ce qui n'a pas de but, ce qui est laissé pour compte, c'est mal. C'est pour ça que R, il s'appelait Ra. Donc, Réa, ça veut dire une partie. Ve'avta le Réacha, toi tu es une partie d'un ensemble, et lui il est une autre partie. Teroua, ce sont des petites parties. Ve'avta le Réacha Kamocha, on va le traduire. Tu auras une relation exacte avec quelqu'un qui est une autre partie de l'ensemble, Kamocha, comme toi. Tous les deux vous faites partie d'un ensemble. À ce moment-là, on a un problème. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans le Zohar, il est écrit que Ve'avta le Reacha Kamocha, Reacha veut dire ton prochain, mais ça veut aussi dire Akadosh Baruch Hu. Et il amène une preuve, le Zohar amène une preuve d'un verset dans le Michelet. Il y a marqué là-bas Reacha, Ve'rea Avicha Al Ta'azov. C'est difficile à traduire. On va s'en tenir au Zohar. Reacha, c'est pas seulement ton prochain, c'est aussi Akadosh Baruch. Continue un petit peu le raisonnement. Si Rea, ça veut dire briser, casser, parti, en quoi Akadosh Baruch peut-il être considéré comme brisé, cassé ou parti? Alors on va dire quelque chose de très simple. En moi, j'ai deux parties. Une partie qui est ma personnalité à moi que j'ai construite, ce que je suis, le produit de tout ce que les générations ont fait de moi, ce que mon entourage a fait de moi. Et il y a une autre partie à l'intérieur que nous appelons la neshama, traduit quelquefois l'âme. Cette partie-là, elle ne m'appartient pas. Elle appartient à Kadosh Baruch Hu. C'est pas moi qui l'ai acquise. On me l'a insufflé. On va peut-être même dire, on me l'a donné sans que je la demande. Ça veut dire que moi j'ai un associé. Je suis fait de deux parties. Une partie qui est celle qu'Akadosh Baruch Hu a mis, Reacha. Lorsque je dis à quelqu'un, Ve'avta le Reacha Kamocha, ça s'applique même à l'homme lui-même. À la partie de l'homme qui est une autre partie de lui. C'est pour ça que le Zohar dit, ça c'est Akadosh Baruch Hu. Il y a dans l'homme une partie de lui-même qui ne lui appartient pas, qui est celle d'Akadosh Baruch Hu, qu'il n'a pas construit, qu'il n'a pas déterminé, qui n'est pas déterminé par les hommes. C'est pour ça que le Zohar dit, Ve'avta le Re'acha Kamocha, il ne s'agit pas seulement de l'homme, il s'agit aussi d'Akadosh Baruch Hu. Boucha, un homme qui a de la retenue, c'est parce que lorsqu'il s'exprime, il n'exprime pas seulement son avis, mais il exprime l'avis de la part d'Akadosh Baruch Hu qu'il a en lui-même. Alors là, il est confronté à une référence, toujours, immédiatement. Et là, il ne peut plus avoir aucune certitude. Aucune certitude vis-à-vis de cette part-là, et aucune certitude vis-à-vis des autres. On va donner encore une deuxième explication. Vous savez qu'il est écrit dans le Rambam que dans une société, ce qui fait marcher la société, c'est celui qui à lui seul pèse le poids qui justifie cette société. En hébreu, on appelle ça tzadik yesod olam. Le tzadik, celui qui se comporte comme Akadosh Baruch Hu attend de lui, donc il a répondu à l'attente, à l'investissement. Donc tout ce qui est investi, c'est pour lui. C'est pour ça que le verset dit tzadik, le juste, yesod, c'est lui la base, olam du monde. Et tous les autres tournent autour. Quelquefois ça peut être l'un le tzadik yesod olam, quelquefois ça peut être l'autre le tzadik yesod olam. À partir du moment où je colle exactement au projet divin, ça veut dire que ce que Dieu a créé pour que ce projet divin se réalise, ça a une justification à travers moi. Donc à ce moment-là, je m'appelle tzadik yesod olam. Chacun, à un moment où il fait une mitzvah, il justifie la création. Comment est-ce que moi, par rapport à l'autre, ou par rapport à Kadosh Baruch Hu, je puis dire que je justifie? Le sentiment d'avoir à justifier, ça s'appelle la retenue, la boucha. Ça veut dire qu'on ne parle pas de la manifestation qui est d'avoir honte, pas d'avoir honte. On parle du fait de toujours faire face et de toujours se justifier par rapport à un projet. Ou ce projet à l'intérieur de moi-même, c'est ce qu'on appelle la neshama, où ce projet est à l'échelle de la société ou même de l'humanité entière. Ça veut dire que je ne suis jamais sûr de la part que j'ai dans le projet divin vis-à-vis des autres et de la part que j'ai vis-à-vis de ma part à moi, dont on a dit que c'était celle d'Akadosh Baruch Hu qui est en moi. Ça veut dire que même lorsque je suis seul, vis-à-vis de ce que Dieu a mis en moi, je suis obligé d'avoir un sentiment qui est celui de la mesure. Je dois me mesurer à ce projet-là qui est à l'intérieur de moi, et je dois me mesurer à ce projet qui est même à l'échelle d'une famille, d'une société. On a une fois dit qu'un homme ne sait pas grâce à qui il vit. Il y a des hommes qui ne sont en vie que parce qu'on a besoin d'eux pour nourrir leurs enfants. Parce que par leur zchout, par leur mérite, ils ne sont déjà plus là. Ils sont là parce qu'ils font partie d'un projet. Il y a des hommes qui sont là pour eux. C'est ce qui s'appelle tzadik yesod olam. Il est possible que moi, dans ce que j'ai à faire dans ce monde, je n'existe que parce que dans le projet divin, je suis celui qui doit amener à quelqu'un d'autre. Mais je ne suis pas celui à qui on doit amener. Je n'en sais rien. À chaque moment, je suis obligé de me mesurer avec ce problème. Ça, c'est vis-à-vis des autres. Ça veut dire que je ne peux pas me permettre azpanim. Azpanim, ça veut dire que je suis là. Je suis le centre. Je décide. C'est faux puisque je sais que je fais partie de quelque chose. Je fais partie d'une famille, je fais partie d'un couple, je fais partie d'une société, je fais partie d'un pays, je fais partie d'un monde. Quel est le rôle que le bon Dieu m'a demandé de jouer là-dedans? Quel que soit ce rôle-là, je ne peux pas affirmer que c'est moi le but, que c'est moi le tzadik qui justifie le projet. À partir du moment où je ne peux pas l'affirmer, je suis confronté à un barème. je suis confronté à une loi dont je fais partie. C'est ça ce qu'on appelle la boucha. Ça, ça va très très loin. Parce qu'on dit qu'il y a deux dimensions, il y a par rapport à l'homme lui-même et par rapport à ce qui l'entoure. Comme ça, j'ai essayé un petit peu de vous traduire ce qui a marqué en une phrase dans un livre qui s'appelle le Réchit Rorma. Le Réchit Rorma, il dit comme ça. Il dit, c'est simple. Il dit, si quelqu'un un jour a envie de faire une avéra, de faire quelque chose dont il sait que c'est mauvais, il sait que c'est mal, il a absolument envie de le faire, comment il fait pour ne pas le faire? Il dit, c'est très simple. Il doit toujours comprendre qu'il n'est pas seul, que lui-même, il est à deux, qu'à l'intérieur de lui, il y a Réacha, Akadosh Baruch Hu. Et l'autre, tu ne peux pas le traîner dans ce que toi, tu as envie. Comprenez? Ça veut dire que si moi j'ai envie de faire quelque chose dont je pense que ça ne doit pas être fait, dont je pense que c'est interdit, jamais je ne le ferai tout seul. Je le ferai tout seul avec ma neshama, c'est-à-dire avec la part d'Akadosh Baruch Hu qui est à l'intérieur de moi. Alors de quoi j'ai l'air après? Donc maintenant le sentiment de la boucha, c'est vrai tout ce qu'on a dit que c'est par rapport à l'extérieur. Ça veut dire que ça ne vient que chez un homme qui est obligé de se mesurer par rapport à un projet, qui est obligé de se mesurer par rapport à une part qui existe à l'intérieur de lui-même et qui ne lui appartient pas. C'est ce qu'on appelle la boucha. Prendre cette mesure-là, c'est pour ça qu'en hébreu, en français, il est plus facile de le traduire par retenue que par honte. Parce que honte, c'est la manifestation du sentiment. Mais le sentiment lui-même, c'est la retenue. Ça, ça va très loin. Je vais vous expliquer pourquoi ça va très loin. Parce que d'abord, c'est un sentiment par rapport aux autres également. On avait dit, la première Gemara dans Yevamot nous dit, « Shlosha simanim b'umazou » Il y a trois signes chez un juif. « Baishanim » Rachmanim, Gomle Chassadim. Les trois simanim, ça s'adresse aux autres aussi. Ça veut dire que le juif, c'est celui qui a pitié de l'autre, c'est celui qui fait du bien à l'autre, mais c'est celui qui prend l'autre en considération. Considération, c'est pas simplement en tant qu'objet de considération, mais en considération parce qu'il ne sait pas si de l'autre ou de lui, qui est justificateur de projet et qui n'est que employé pour justifier le projet. C'est-à-dire que c'est pas seulement que je vais donner à l'autre, je vais essayer de me mesurer à l'autre. Et si je suis toujours obligé de me mesurer à l'autre, alors je ne peux pas me permettre d'être az panim, de ne pas trembler, je ne peux pas me permettre d'être sûr de moi, parce que peut-être lui, il est justificateur du projet, c'est lui le tzaddik dont on a dit Yesod Olam qui justifie la création, alors que moi je ne suis là que pour lui apporter. Je ne suis ce qu'on appelle le keli, l'ustensile dans la main d'Akadosh Baruch. Maintenant on va essayer de comprendre la deuxième Gemara. La deuxième Gemara elle me dit simplement voilà. Siman Yafé, c'est un bon signe. Celui qui prend la mesure des choses, il est Baishan, il n'est pas sûr de lui parce que ce n'est pas lui la référence, c'est parce que lui veut qu'il y ait barème, mais il existe un barème extérieur. Celui-ci, Siman chez le Hirta, il ne fait pas de faute. Deuxièmement, Acherim Omrim, attention, ça va encore beaucoup plus loin. C'est qu'un juif, il a conscience, et c'est ce que nous disons tous les matins. Tous les matins, nous disons ceci. Elokai Neshama Shenatata Bi Tehora I. Venez, on va traduire. Elokai, c'est mon Dieu. Neshama, la Neshama. Shenatata Bi, que tu as mis en moi. Tehorai, elle est pure. Ça, ça doit être ancré à l'intérieur du juif au point que nos pères, lorsqu'ils ont vu apparaître Dieu au Har-Sinaï, ils ont compris qu'ils ne vivaient que par cela. Ça veut dire que la définition du juif, c'est celui qui a compris une fois pour toutes. Et c'est là où on va voir la boucha. Il a compris qu'il n'est pas né de lui-même. Parce que ça a l'air bizarre. Les gens croient toujours qu'ils sont originaux. Original, ça veut dire qu'ils se sont produits par eux-mêmes. L'ABC de la émouna, c'est-à-dire de la croyance, de la certitude du juif, c'est de savoir que il est le produit, il est un objet créé et qu'il a au fond de lui une volonté qui ne lui appartient pas. Attention, la boucha, ce n'est pas simplement quelque chose, un sentiment qui permet de ne pas fauter. C'est un sentiment qui oblige à se mesurer. Et celui qui sait se mesurer à l'investissement qu'a mis en lui Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle la Neshama, ça, c'est la définition la plus primaire du juif. Alors maintenant, on va essayer de répondre à la question de savoir est-ce que ça se cultive ou c'est génétique. Nous, les juifs, on n'a jamais ce problème-là. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on pense que l'aventure de l'homme, elle est dessinée par Dieu. Alors, on n'a pas besoin de croire que ça passe dans les gènes. On peut croire que ça passe dans l'aventure. Ça veut dire qu'un juif, un jour, il a l'occasion de comprendre ça. L'aventure du juif, elle est dessinée par Akadosh Baruch Hu. Je n'ai pas besoin, pour acquérir quelque chose, de penser que ça doit passer par les gènes. Il me suffit de penser qu'au moins une fois dans ma vie, j'aurai une occasion de le comprendre. Parce que ça, c'est la responsabilité d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de moi. Qu'il me donne le choix et il me donne la compréhension de ces choses-là une fois dans ma vie. Si j'y adhère, j'y adhère. Si j'y adhère pas, j'y adhère pas. Mais on n'est pas obligé de penser que ça passe par les gènes. Mais donc ça se cultive, c'est évident que ça se cultive. Puisqu'on voit que la Gemara dans Yevamot, elle nous dit que quoi ? Que celui qui veut se convertir, on essaie de savoir s'il a ces trois choses-là. Donc c'est qu'il les a cultivées, lui. Maintenant on peut aussi dire, et c'est vrai que c'est marqué comme ça dans la Kabbalah, que tout celui qui se convertit, c'est qu'il a une neshama qui était présente au Sinaï, au Mont Sinaï. Mais sans rentrer dans des considérations qui sont difficiles à comprendre pour nous, chaque chose qui existe dans le peuple juif, elle existe à travers l'histoire du peuple juif. Il est possible qu'un juif qui n'a jamais l'occasion de penser ni de se rendre compte qu'il est juif, c'est possible qu'il n'est pas juif en vérité. C'est difficile de juger. Comprenez ? Mais nous, nous ne croyons, nous ne sommes pas obligés de penser aux gènes. Et on n'est pas obligé de penser non plus que ça se cultive tout seul. Ça se cultive grâce à ce que Akadosh Baruch Hu me fait comprendre. Et il n'existe pas un juif qui, dans sa vie, n'a pas eu l'occasion à un moment de comprendre certaines choses. Parce que sa vie, elle a été tracée pour qu'il adhère à ces choses-là. C'est ça la ligne du Har Sinaï. Quand ça se passe dans la vie, comment ça s'est passé dans la vie, à quel moment, à quel propos, c'est chacun autre chose. Mais nous devons poser qu'il ne peut pas y avoir d'âme juive chez les papous ou les anthropophages parce qu'ils n'ont pas l'occasion d'être confrontés avec la vérité de la Torah. Et si jamais un homme venait chez nous et qui nous dirait « Voilà, de toute ma vie, je n'ai jamais eu l'occasion d'être confronté avec ces idées-là », il est possible que bien qu'il fasse partie du peuple juif parce que génétiquement il fait partie, mais c'est ce que nous dit la Gemara, « Beyadua sheloam doavota valar sinai ». Celui-ci, il est possible que ses pères n'étaient pas au Mont Sinaï. Il ne fait pas partie du peuple juif. Donc notre problème, ce n'est jamais un problème de gêne ou un problème de cultiver ça soi-même. C'est qu'à chaque moment, en tout cas, il existe un moment, il existe seulement plusieurs moments, où dans la vie d'un juif, il est tracé par Dieu le signe du Har Sinaï. Parce que sinon, ça n'a pas d'impact. L'impact du Har Sinaï, il est sur le peuple juif du début à la fin. Il n'est pas sur ceux qui étaient au Har Sinaï. C'est pour ça que nous disons « Atem nitzavim ayom kulchem lifnei Hashem elokichem ». Atem nitzavim, vous vous êtes debout, vous êtes devant. Kulchem tous, kulchem ça veut dire toutes les générations à venir du peuple juif. En fin de compte, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire qu'il y a une attitude qui est une attitude juive. Que par rapport à l'autre, que par rapport à Kadosh Baruch Hu. Donc, on a dit à travers cela, par rapport à soi-même, c'est-à-dire au projet qu'on a pour soi-même, d'être toujours en train de mesurer, de ne jamais être sûr. Sûr dans le sens de ne jamais être justifié par la seule existence. C'est ce qu'on appelle, nous, la retenue, la boucha. Ça s'exprime vis-à-vis de l'autre aussi. Ça veut dire que si j'ai honte vis-à-vis de l'autre, si je ne me pose pas là vis-à-vis de l'autre parce que j'ai toujours en mémoire le fait que tous les deux on est des gens créés et je ne sais pas qui c'est qui justifie quoi, à partir de ce moment-là, j'ai une attitude qui s'appelle une attitude de boucha. Il y a une exception à ça. C'est qu'on peut me demander de la boucha vis-à-vis de l'autre. On peut me demander de la boucha vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Mais vis-à-vis d'une idée, je n'ai pas à avoir de boucha. Ça veut dire que je suis obligé, moi, vis-à-vis des idées qui sont les miennes, à partir du moment où je pense les avoir justifiées ou les avoir acquises par ce qui est mon barème, là, il n'y a plus de boucha. On peut me dire, voilà, quand tu parles à l'autre, tu dois parler la voix basse. Quand tu parles à l'autre, tu dois avoir une attitude qui n'est pas celle de la certitude. Mais dans les idées, ça ne doit pas exister. Il n'y a pas de boucha dans l'idée. Ça veut dire que lorsque j'ai étudié un texte, j'en ai tiré une halakha, j'en ai tiré une conclusion. Là, je suis obligé de le défendre avec la plus grande azout panim, avec la plus grande fermeté. Parce qu'au niveau des idées, on ne peut pas me demander de la boucha. On peut me le demander au niveau du sentiment, mais jamais au niveau de l'idée. Et je vais vous dire pourquoi, et c'est comme ça que vous allez comprendre un mizmor qu'on dit tous les vendredis soirs. Mizmor le David, avoul Hashem, bene Elim, ça se termine, Hashem, oz le amoiten. Oz, ça veut dire quoi oz? C'est le même mot que az panim. Ça veut dire la force, la référence. Hashem, oz le amoiten. Ça veut dire que Dieu nous a donné la Torah en référence. À partir du moment où je possède cette référence, et je crois la posséder parce qu'elle a été donnée à l'homme de la définir, à ce moment-là, il n'y a plus de place pour la retenue. Parce que s'il y avait de place pour la retenue, ça veut dire que je ne serai jamais sûr, même par rapport à la Torah. Et ça, c'est une impossibilité, parce qu'un homme doit pouvoir posséder la loi qui le régit. Il est impossible qu'à chaque instant, je me dise, est-ce que je comprends ou je ne comprends pas. Il y a bien un moment où je dois être sûr. Ça veut dire, de nouveau, on va arriver à la même conclusion que la semaine dernière. Dans mon jugement par rapport à une idée, là, je dois avoir des certitudes absolues. Dans mon jugement par rapport aux hommes, par rapport à des comportements, par rapport à ma place, là, il doit avoir une incertitude, c'est-à-dire une mesure qui est à prendre tout le temps, ce qui s'appelle la boucha. Donc maintenant, on peut comprendre le texte. La Gemara nous dit, voilà, il y a trois choses chez un juif. Un juif, c'est celui qui tient compte de l'autre. Et puisqu'il tient compte de l'autre, pourquoi? Parce que les deux font partie, ils s'appellent Reacha. Ils font partie d'un même projet. Ve'avta le Reacha Kamocha, tu aimeras ton prochain. On a dit Reacha, ça veut dire une partie. On fait partie d'un même projet. Il est impossible de croire qu'un homme est supérieur à un autre. C'est pour ça qu'il est écrit Ve'avta le Reacha Kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, il faut être Rachamaim. Rachamaim, ça veut dire avoir pitié. Gom le Chassadim, il faut pouvoir apporter quelque chose à l'autre. Très bien. Mais là, il y a une dimension au milieu. C'est pour ça que la Gemara dit « Bay Shalim », ça veut dire celui qui sait prendre la mesure de ce que je suis et de ce qu'est l'autre. Là, il y a une sûreté de soi qui doit manquer aux Juifs, qui fait qu'il a une attitude qu'on va traduire de retenue. C'est pour ça que la Gemara nous dit après. Elle ne retient pas « Gom le Chassadim » et « Rachmanim ». Parce que ça, c'est une attitude évidente vis-à-vis de celui que je considère comme mon égal. Ce qu'on retient, c'est l'attitude de boucha. Parce que celui qui n'a pas de rachmanout, on peut dire qu'il lui manque quelque chose. Celui qui n'a pas de boucha, ça veut dire qu'il n'a pas de retenue, qu'il ne baisse pas la tête par rapport à quelque chose d'extérieur, celui-ci, c'est qu'il ne fait pas partie du projet du Har Sinaï. Parce que le projet du Har Sinaï, c'est d'insuffler dans l'homme un barème. Et si moi je ne sais pas me situer et me mesurer par rapport à lui, c'est que ça n'a aucun intérêt. Comment ça passe dans l'histoire? Ça, chacun peut mesurer sa propre histoire individuelle et collective, de savoir comment le Har Sinaï vient, il arrive chez lui. Là, ça peut se passer même par la télévision. Ça, c'est à chacun de le mesurer. Maintenant, on va comprendre un corollaire certain. La Gemara, elle dit, Ravashi, un jour, sa mère lui a conseillé d'avoir toujours quelque chose sur la tête. De quoi ça sert? Pour que tu aies toujours la boucha d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous, on a l'habitude de se couvrir la tête. Couvrir la tête, ça veut dire une chose. Ça veut dire que ce n'est pas moi la référence. L'attitude d'avoir la tête couverte, elle vient d'un langage simple. C'est qu'en hébreu, le harim rosh, relever la tête, ça veut dire montrer qu'on est soi-même le barème. On est soi-même la source de son idée. On est soi-même la source de sa conscience. C'est que nous, les Juifs, on n'a pas de conscience. On a la Torah. Celui qui a une conscience, ça veut dire que cette conscience, elle est incapable d'être mesurée à l'extérieur. C'est lui qui l'a forgée. Nous, on n'a rien forgé du tout, on a la Torah. La mère de Rav Ashi lui a dit, garde toujours la tête couverte. Pour qu'il y ait émat, il y ait la crainte. La crainte, ça veut dire que à chaque instant, un homme doit savoir que tel qu'il est, tel qu'il a l'air, ça ne veut encore rien dire. Ça, c'est le sens du minag qui a été créé dans le clan d'Israël. Ça fait partie de la notion de boucha, de honte, de retenue. Donc maintenant, on comprend pourquoi la Gemara insiste plus sur la boucha, sur la retenue, en tant que mida, en tant que qualité de celui dont le père était au Mont Sinaï, plutôt que sur les deux autres qualités. Parce que ça, ça fait partie de l'être même du juif.
Tiskul Mitzvos, Rosh Yeshiva, Rav Eiman Shlita pour votre shiur. Dvar Torah enregistré plusieurs dizaines de cours du Rav Eiman qui n'ont pu encore être édités. Ce sont des cours inestimables. Vous pouvez contribuer à leur diffusion en dédiant un cours, comme ici, à la mémoire d'un être cher. Le profit qu'il en retirera, comme le vôtre, sera immense. C'est celui que procure l'accomplissement de la mitzvah de la diffusion de la Torah. Joignez-nous vite à Dvar Torah au 01 48 29 65 29. Aussi pour recevoir notre catalogue. À très bientôt, Kol Tov.